Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons entendu une parole glorieuse et je voudrais m'y associer et revenir ensuite à Luc 2. J'ai été effleuré par la pensée lorsque nous avons lu cette parole que le Seigneur Jésus est allé nous préparer une place. Et l'autre parole qui m'est venue à l'esprit est la suivante. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce dont le cœur de l'homme n'a point eu le pressentiment, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9, et je devais faire la comparaison entre son accueil ici-bas et notre accueil là-bas dans la gloire. Son accueil ici-bas était si bas, si insignifiant, si simple, qu'il n'aurait pas pu être plus simple. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge. Il y avait une étable pour lui, une crèche. Pas de préparatif particulier, rien. Mais qu'est-ce qui nous attend là-bas dans la gloire? Quand nous nous rendons compte de cela que le Très-Haut s'est abaissé à ce point pour nous élever à ce point, nous qui ne sommes rien, et nous accorder ce privilège d'entrer dans sa gloire par les portes de perles. Alors nous comprenons ce que l'amour de Dieu signifie en réalité et en vérité, en action et en vérité pour nous tous, et ce que le Seigneur a préparé pour nous. Oui, pour ceux qui l'aiment. Lorsque le Seigneur Jésus était ici sur terre, il n'avait pas de place. Et une fois, il le dit lui-même plus tard, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Matthieu 8, 20. Le prophète Ésaïe écrit au chapitre 53. Il était évité par les hommes. Il n'avait ni forme, ni beauté pour être désiré. Mais il a plu au Seigneur d'expier toutes nos fautes, de faire retomber sur lui l'opprobre afin que nous soyons jugés dignes, d'être retirés de cette vallée de larmes et de lamentations, de cette détresse, pour être toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la grâce. Et le Sauveur a dit ici aux siens, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez confiance en Dieu et en moi. Et il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de place, beaucoup d'espace. De la place pour nous tous. Ici-bas, il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge. Mais là-bas, il y a beaucoup de demeures, beaucoup de place, beaucoup d'espace pour tous ceux qui viennent à lui. Et ceux qui le reçoivent, il a déjà préparé le lieu pour eux. Rien n'était préparé pour lui, mais il a tout préparé pour nous. Et c'est cela la grâce. C'est cela le privilège que nous avons. Je voulais alors lire Luc 2. Luc 2, l'histoire bien connue, nous n'avons guère eu l'occasion de lire ce texte. Nous avons entendu cette parole dans la prédication de frère Branham, mais nous voulons la relire. Peut-être à partir du verset 8, c'est un événement si glorieux, le plus glorieux qui ait jamais eu lieu, à savoir que le Seigneur Jésus a été manifesté, oui, qu'il est né. Luc 2, verset 8. Or, il y avait dans cette même région des bergers en pleine campagne qui, cette nuit-là, veillaient sur leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car sachez que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. » Verset 11, « Car il vous est né aujourd'hui le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, dans la ville de David. » Verset 12, « Et que ceci sera le signe de reconnaissance pour vous. Vous trouverez un enfant nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire, une crèche. » Verset 13, « Et soudain, il y eut avec l'ange la multitude des armées célestes qui louaient Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes du bon plaisir de Dieu. » Dans les hommes du bon plaisir de Dieu. Tout d'abord, jusqu'au verset 14, cette précieuse parole de Dieu. Nous savons que les promesses des saintes écritures ont été révélées à ceux qui y ont cru. Non pas à ceux qui les ont interprétées et qui en ont parlé, mais à ceux qui les ont cru. Et l'avantage de ces bergers, c'est qu'ils n'avaient pas besoin et n'étaient pas obligés d'écouter les interprétations, mais qu'ils pouvaient être là-bas, en silence, avec Dieu et avec eux-mêmes, pour recevoir, le moment venu, cette révélation. Il y a beaucoup de gens qui disent, il nous suffit d'avoir la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de révélation, il nous suffit d'avoir la parole de Dieu. Certes, cela semble très fin. Et aujourd'hui encore, j'ai entendu lors de je ne sais quel discours qu'une chère sœur m'a donné, qu'il ne fallait pas, je dois être prudent. En tout cas, les prophéties ont été interprétées à peu près comme si toutes les prophéties que nous avons à entendre étaient déjà dans la Bible. Eh bien, ce serait très bien. Et du point de vue de l'histoire du salut, c'est également vrai. Mais ce que Dieu fait, c'est ceci. Il révèle aux siens, lorsque le temps est venu, que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent. Qu'il s'agisse des bergers dans les champs, de Siméon, d'Anne ou de qui que ce soit d'autre, ce n'est pas seulement la parole écrite, mais le même esprit qui a inspiré la parole vient sur ceux qui croient les paroles de leur cœur et ils reçoivent la révélation vivante afin qu'ils puissent aller voir ce qui s'est passé. Chaque fois que Dieu donnait une révélation, les gens ne restaient pas assis, mais ils allaient voir ce qui se passait. Les bergers se sont mis en route. Siméon s'est mis en route. Anne était là-bas où ce que l'Écriture avait prédit s'est effectivement produit. Donc, pas seulement les promesses dans la parole de Dieu, mais la révélation sur ceux qui croient à la parole de la promesse pour leur temps. Et c'est en fait ce qui est devenu si grand pour nous en ce moment. Tout le monde peut prêcher à ce sujet, on peut en parler beaucoup. Et pourtant, on n'a pas besoin de voir ce que Dieu a fait à moins que le Saint-Esprit ne nous l'ait révélé. Combien de personnes attendaient le Messie à cette époque? Et frère Branham a si bien exprimé le fait que les bergers ne sentaient pas du tout la théologie ou le théologien. Et s'ils entrent tout à coup dans la ville et disent, Monsieur et Madame, nous voulons vous faire savoir ce que nous avons entendu. Oui, ces messieurs et ces dames leur auraient fait savoir autre chose. Mais qu'est-ce que c'était? La simplicité de Dieu. Dieu se révèle en toute simplicité à ceux qui croient en sa parole promise, où qu'il soit. Que ce soit la nuit avec le troupeau ou le jour à la maison, cela n'a aucune importance. Au moment où sa parole s'accomplit, le Seigneur révèle aux siens que le moment est venu. Ils allèrent voir et ils trouvèrent exactement ce qui leur avait été annoncé. Il en a été de même pour le peuple de Dieu à toutes les époques. Dieu le Seigneur s'est toujours révélé de manière surnaturelle et a envoyé l'un de ses serviteurs pour faire connaître au peuple de Dieu ce que Dieu avait fait. Il s'agissait toujours d'hommes simples, mais c'était des hommes à qui l'Esprit de Dieu pouvait donner la révélation par grâce. Des hommes qui n'avaient pas leur propre programme, mais la révélation vivante de Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit ici qu'un ange du Seigneur était là et qu'il leur a donné cette annonce et que la gloire du Seigneur les a illuminés. Les personnes qui croient à la parole de la promesse entreront tôt ou tard en contact avec l'ange du Seigneur et seront enveloppées de la gloire de Dieu. Vous pouvez comprendre cela comme vous voulez, mais c'est vrai. Nous étions tous assis dans les ténèbres. Soudain, une lumière s'est allumée. Qu'est-ce que c'était? Avons-nous actionné un interrupteur quelque part pour allumer la lumière? Non. La lumière est venue à l'heure du soir. La lumière s'est faite au moment où la parole de Dieu s'est accomplie. Et c'est précisément le moment où les enfants de Dieu sont entourés de la gloire de Dieu. Si nous pouvions voir ce que nous ne pouvons justement pas voir avec nos yeux terrestres, nous constaterions parfois qu'il se passe quelque chose de surnaturel sans même que nous l'enregistrions. Dois-je vous dire que nous ne sommes même pas capables par nature de penser correctement aux choses divines, que même notre pensée, que toutes nos pensées doivent d'abord être confisquées sous l'obéissance de Dieu, sous l'obéissance de la parole de Dieu, et que c'est le Seigneur seul qui peut donner cette illumination. Le cœur de l'homme s'égare toujours, même si nous pensons que nous suivons un chemin tout tracé, et il y a suffisamment de personnes qui, en ce moment, sont spirituellement convaincues dans ce temps de marcher en ligne droite. Mais s'il s'agit d'une voie droite, elle ne peut avoir été tracée que sur la base de la promesse de la parole de Dieu. Déjà, pour la première venue de Jésus-Christ, il est écrit dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, « Rendez droit les chemins du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu. » Ésaïe 40, verset 3. « À moins que le chemin ne soit frayé et aplani pour le peuple de Dieu, sinon il est tortueux. Les hommes l'ont rendu ainsi par toutes leurs interprétations. Mais Dieu envoie la parole de révélation pour redresser ce qui est tordu. Et ce n'est que lorsque nous marchons sur le chemin tracé que c'est un chemin droit. Et sur ce chemin, même un fou ne pourra pas se tromper, s'égarer, car c'est ainsi que c'est écrit dans Ésaïe 35. Ce sera alors un chemin tracé, un chemin élevé, une route de notre Dieu, et aucun impur n'y marchera. Mais ceux que le Seigneur a rachetés pourront y marcher. Ésaïe 35, verset 8. Voilà ce qui est précieux, frères et sœurs. Rappelons-nous ce qui s'est passé lors de la première venue du Christ, afin de savoir ce qui se passera lors de sa seconde venue. Que ce n'est pas pour rien que quelque chose soit prêché ici. Nous devons dire, le Seigneur a envoyé son ange et a fait annoncer ce qui était prévu pour ce temps. Et nous tous qui avons entendu cet appel et l'avons suivi, nous avons constaté que tout se déroule comme cela nous a été dit et communiqué. Nous pensons ici à la colonne de feu, aux choses surnaturelles qui se sont produites à notre époque. Dieu est un Dieu surnaturel. Il n'est pas à chercher ou à trouver dans les interprétations des scribes, mais dans la révélation qu'il donne à ses serviteurs et à son peuple en temps voulu. En ce temps-là, autrefois, c'était les bergers. Le Seigneur pouvait leur parler. Il pouvait les entourer de sa gloire. Il est dit ici littéralement, Luc 2, verset 9 et 10. Alors, un ange du Seigneur se présenta à eux et la gloire du Seigneur les enveloppa et ils furent saisis d'une grande crainte. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car sachez que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Cette joie de la communication divine de ce qui s'est passé en ce temps-là selon le plan de salut de notre Dieu était si grande. Et puis la conclusion est que tout à coup avec cet ange, il y avait la multitude de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les hauteurs du ciel et paix sur la terre dans les hommes du bon plaisir de Dieu. Et qui sont ces gens? Ce sont des gens qui marchent avec Dieu. Car Enoch marchait avec Dieu et il avait le témoignage que le bon plaisir de Dieu reposait sur lui. Les hommes qui marchent avec Dieu, c'est sur eux que repose le bon plaisir de Dieu, parce qu'ils entendent au temps fixé l'annonce de la parole prophétique et de son accomplissement, et qu'ils sont enveloppés, entourés de la gloire de Dieu, et qu'ils vont et trouvent comme il a été dit. Ce sont des personnes sur lesquelles repose le bon plaisir de Dieu. Je peux très bien imaginer que les bergers étaient considérés de l'extérieur avec peu de bienveillance, de bon plaisir par les gens. Mais nous pouvons nous y fier. Le bon plaisir de Dieu reposait sur eux. Ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu là où l'Écriture s'est accomplie. Puis, ils ont rendu l'honneur et ont apporté l'adoration au Seigneur. Et ils ont dit, oui, nous lisons peut-être encore le verset 15. Luc 2, verset 15. Après cela, quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui s'y est passé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 16. Ils y allèrent donc en toute hâte et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que l'enfant couché dans la crèche. Verset 17. Quand ils l'eurent vu, ils leur firent part de l'annonce qu'ils avaient entendue au sujet de cet enfant. Verset 18. Et tous ceux qui l'entendirent s'étonnèrent du récit des bergers. Verset 19. Mais Marie gardait toutes ses paroles en mémoire et les méditait dans son cœur. Nous le voyons ici. Les uns étaient étonnés. Mais Marie, en qui la promesse s'est accomplie, a gardé dans son cœur toutes ces paroles, repassait dans son cœur toutes ces paroles qui ont été dites, tout ce qui a été rapporté. Si nous pouvons transporter cela à notre époque, il y en a beaucoup qui se sont étonnés de ce qui s'est passé. Mais seuls ceux qui ont été graciés, qui ont reçu la grâce par Dieu, seuls ceux en qui la promesse est accomplie, ont repassé ces paroles dans leur cœur, ont gardé dans leur cœur toutes les paroles qui ont été révélées dans ce temps. Les autres peuvent être émerveillés, ils peuvent s'étonner ou même s'émerveiller, mais Marie a gardé et a repassé toutes ces paroles dans son cœur. Qu'est-ce que c'était? Elle était celle que Dieu avait, à qui Dieu avait fait grâce. C'est par elle que la promesse s'est accomplie. C'est en elle, en son corps tout entier, que la promesse de ce temps est devenue vérité. Elle a vécu tout cela. Elle était une partie de ce don. De ce dont il s'agissait autrefois. Elle ne s'est pas contentée de s'étonner. Elle a gardé et repassé dans son cœur ces choses. Il en va de même pour nous en ce temps. Nous ne sommes pas là à écouter de loin et à nous étonner, mais c'est en nous que l'Écriture s'accomplit en ce temps. Nous sommes une partie du plan de salut divin et de sa réalisation dans ce temps, de sorte que nous aussi, nous pouvons conserver et repasser toutes les paroles qui ont été prononcées. Nous en sommes certains, partout où les promesses de Dieu sont crues, la gloire de Dieu doit descendre. Il doit s'y passer quelque chose. Dieu ne peut pas se taire. La foi fait bouger le bras de Dieu. La foi permet à la puissance de Dieu de se manifester dans notre vie. Si nous parcourons tout le plan de salut de Dieu, si nous nous y plongeons, nous voyons les traces de la révélation divine dès le début. Et qui a eu la révélation divine? Ceux qui ont été bénis par Dieu et qui lui ont donné la foi. Nous pouvons remonter jusqu'à Abel. C'est par la foi. Par la foi. Qui lui a donc prêché? Pour qu'il soit écrit là, que c'est par la foi. Il avait la foi. Il avait la foi. Et c'est par la foi qu'il lui fut révélé ce qu'il devait faire. Frères et sœurs, chers amis, chers amis, Dieu a ses voix avec son peuple. Il parle encore aujourd'hui. Il révèle encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il vient répandre sa gloire sur les siens. Et aujourd'hui encore, nous gardons et repassons toutes ces paroles dans notre cœur. Et pour quelle raison? C'est parce que nous les avons vus s'accomplir. Ce n'est pas seulement un émerveillement, c'est une adoration dans notre cœur. Que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament ou les apôtres dans le Nouveau Testament, tous se sont laissés conduire par l'Esprit de Dieu, ont écouté la voix du Seigneur et ont fait connaître au peuple de Dieu ce que le Seigneur avait ordonné pour des temps déterminés. Ces jours-ci, nous avons encore exploité un peu plus le thème que nous avons déjà traité ici pour les émissions de radio. Et c'est en fait quelque chose de tellement merveilleux que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, et je n'y ai pas pensé tout de suite, que Dieu déjà, dans les fêtes qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament, a annoncé certaines choses dans l'histoire du salut ou les a anticipées comme dans une image. Dans Lévitique 23, nous trouvons les fêtes que le Seigneur a ordonnées au peuple d'Israël. La dernière de ces fêtes est la fête des tabernacles. Je crois que la première était la Pâque, suivi des pains sans levain, puis de la gerbe des prémices qui devait être offerte au Seigneur, puis de la Pentecôte. Cela continuait ainsi jusqu'au grand jour des expiations, de la réconciliation, jusqu'à la fête des tabernacles. Et c'était la dernière de toutes les fêtes. C'était, pour ainsi dire, l'assemblée finale. La fête finale. La fête de toutes les fêtes. Et n'est-il pas étrange que l'on soit allé chercher des branches de palmiers précisément pour cette fête? Nous avons récemment parlé de la foule d'Apocalypse 7. Nous parlions du fait qu'à l'époque de Jésus, lorsqu'il est entré à Jérusalem, les gens ont soudain pris des branches de palmiers. Voici la dernière fête dans la classification des fêtes bibliques de l'Ancien Testament qui ont toutes une signification dans l'histoire du salut. Il est dit ici, dans Lévitique chapitre 23, c'est probablement le 40e verset à peu près, où les palmiers sont énumérés qui sont alors, oui. Le premier jour, verset 40, donc, Lévitique 23, verset 40. Le premier jour, vous prendrez des fruits d'arbres magnifiques, des feuilles de palmiers et des branches d'arbres au feuillage touffu. Si nous suivons cette histoire de salut, ce que Dieu a ordonné, cela n'a été ordonné ni à la Pâque, ni à la fête des pains sans levain, ni le jour des expiations, le jour des réconciliations, ni à la fête de la Pentecôte. Il y eut suffisamment de fêtes. Mais à la dernière, c'est à la dernière fête que cela fut ordonné et ils durent habiter sous des tentes. Et si vous voulez lire chez vous la raison et tout le reste, cela a été indiqué ici. Dieu le Seigneur a tout organisé d'une manière merveilleuse et la seule fête que les Juifs ont célébré après leur retour de la captivité à Babylone, c'était quoi? Quelle fête les Juifs ont-ils célébré à leur retour de Babylone? La fête des expiations? La Pâque? Non. La fête des tabernacles. Et là-bas aussi, l'homme de Dieu a donné les mêmes instructions que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait donné. Et ils firent la fête devant le Seigneur, et ce fut une joie terriblement grande. Nous pouvons le lire ici dans le livre de Néhémie. C'est dans Néhémie, le chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. Il est écrit ici. Ah, peut-être devrais-je vous lire le dernier verset du chapitre 7, car cela aussi a une signification. Donc, Néhémie 7, verset 73, verset 73. Le septième mois s'approcha tandis que les Israélites se trouvaient dans leur localité. Quand le septième mois s'approcha, la Pâque était au premier mois. La fête des tabernacles était au septième mois. Et il est dit ici, lorsque le septième mois s'approcha, tandis que les Israélites se trouvaient dans leur localité, et ensuite tout le parcours est énuméré. Je ne veux lire que le verset 13 ici. Néhémie 8, verset 13. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent chez Esdras, le scribe, pour prendre connaissance du texte de la loi. Verset 14, ils se trouvèrent écrit dans la loi que le Seigneur avait ordonné par Moïse que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois. Verset 15, ils devaient publier et faire publier à haute voix dans toutes leurs localités et à Jérusalem. Allez dans les montagnes, cherchez des branches d'olivier franc et d'olivier sauvage, des branches de myrte, de palmier et d'autres arbres au feuillage touffu pour en faire des tentes de feuillage comme il est écrit. Au verset 16, alors le peuple sortit en prit et s'en fit des tentes, chacun sur son toit ou dans ses cours, ainsi que dans les cours de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Verset 17. Ainsi, toute l'assemblée, tous ceux qui étaient revenus de la captivité, se construisirent des tentes de feuillage et habitèrent dans ces tentes. Depuis les jours de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient pas célébré de cette manière la fête. Et il y avait une très grande joie. Peut-être seulement jusqu'ici. Nous avons souvent dit que l'Ancien Testament n'a pas été écrit uniquement pour nous donner quelque chose à lire, mais que du point de vue de l'histoire du salut, nous voyons ici tout ce dont nous avons besoin pour le déroulement du Nouveau Testament. C'est ici que tous ceux qui sont revenus de la captivité se sont retrouvés pour célébrer la fête des tabernacles en l'honneur du Seigneur. Un rappel, et il est écrit ici, depuis les jours de Josué. Que se passait-il du temps de Josué? Au temps de Josué, la promesse de Dieu s'est accomplie, s'est réalisée. Le pays que j'ai juré à tes pères, je te le donnerai. Et Josué partagea le pays conformément à la promesse. Et en ce temps-là, on célébrait. Mais depuis ce temps-là, on ne célébrait plus jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit revenu de la captivité de Babylone. Le scribe ici présent, Esdras, aurait pu lire dans Moïse, dans le premier, dans le deuxième, le troisième, et le quatrième et le cinquième livre de Moïse. Il y a tant de chapitres, il aurait pu lire tout ce qu'il voulait. De la Genèse à Deutéronome, il aurait pu leur dire, ah, écoutez, aujourd'hui nous allons lire le récit de la création. Ou bien, il aurait pu dire, aujourd'hui nous allons lire sur le déluge. Il aurait pu leur dire beaucoup de choses, mais il n'était pas un scribe enseigné par des hommes, mais un scribe enseigné par Dieu. Et il savait, sur la base de l'inspiration et de la révélation divine, à quelle parole prophétique il devait revenir pour l'apporter au peuple de Dieu de l'époque. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Nous pourrions lire beaucoup, beaucoup de choses dans toute la Bible, n'est-ce pas? Mais de quoi s'agit-il aujourd'hui? L'Esprit de Dieu nous avertit à lire ce qui a été promis au peuple de Dieu pour ce temps dans lequel nous sommes. Et c'est bien là la gloire que nous pouvons vivre avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de célébrer la fête des tabernacles aujourd'hui, mais une chose est sûre. Nous devons nous orienter de manière prophétique après le retour de la captivité babylonienne dans laquelle nous étions tous plongés, comme cela s'est passé à l'époque. Et Dieu a fait en sorte qu'une parole prophétique soit placée sur le chandelier à notre époque. Et c'est avec la même certitude que ces serviteurs de Dieu étaient autrefois revenu et avait ordonné les choses divines. Oui, avec la même certitude, nous pouvons revenir aux promesses de Dieu et ouvrir les Saintes Écritures et lire au peuple de Dieu ce qui a été donné comme prophétie en ce temps dans lequel nous sommes et ce que Dieu a fixé pour ce temps. Il est dit ici qu'il y avait une très grande joie parmi le peuple. Ils étaient retournés dans le pays de la promesse. Ils se souvenaient de ce que Dieu avait fait au temps de Moïse et au temps de Josué. Ils s'accrochaient au Dieu fidèle. miséricordieux et compatissant. Et dans leur cœur, il y avait une telle joie pour ce qui s'était passé à l'époque. Que Dieu avait changé leur destin et les avait ramenés. Pour nous, en ce temps, c'est une grande joie. Dieu a changé notre destin. Nous ne lisons pas ce que nous voulons ou ce que les gens veulent entendre, mais nous lisons ce que le serviteur de Dieu a reçu du Seigneur. Il est dit ici, les Israélites se sont rassemblés et ont lu, et on leur a lu la loi du Seigneur, telle que Moïse l'avait ordonnée. Oh, que Dieu, le Seigneur, nous accorde sa grâce en ce moment. Qui étaient ceux qui ont apporté les palmes de victoire? Ce sont ceux en qui la promesse s'est accomplie en leur temps. Que ce soit au temps de Moïse, au temps de Josué, au temps d'Esdras, de Néhémie et de qui que ce soit d'autre, que ce soit au début de la Nouvelle Alliance ou maintenant à sa fin, qui sont ceux qui ont cru aux promesses de Dieu? Ils ont la grâce et peuvent reconnaître ce que Dieu a fait en leur temps. Et aussi cet homme de Dieu, il a tout fait selon la parole du Seigneur. Dans notre cœur, il n'y a qu'un seul désir, que nous fassions tout selon les Saintes Écritures. Nous revenons à la parole du Seigneur, à la parole prophétique, aux promesses pour ce temps. Et nous revenons ainsi à la parole avec laquelle nous avons commencé en disant cela. Le Seigneur Jésus a fait la promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Pour qui l'a-t-il préparé? Pour ceux qui ont cru à sa promesse de tout leur cœur et de toute leur âme. Nous n'aurons alors plus besoin de construire des tabernacles. Nous aurons déjà tout préparé. Le Seigneur nous a précédés pour préparer une place et il reviendra. Que se passera-t-il lorsque tous ceux qui auront cru au Seigneur et à sa parole seront rassemblés et entreront victorieux par les portes de perles? Quel sera le chant? S'il est déjà écrit ici, il y eut parmi eux une très grande joie. Que sera-t-elle alors? Qui pourra décrire cela? Quelle langue veut exprimer ce que ce sera? Que Dieu nous fasse la grâce de croire en lui, d'être entouré de sa gloire et d'aller trouver comme il l'a promis. Ceux qui sont sortis de Babylone ont trouvé tout ce qui leur avait été promis. Et nous aussi, qui vivons dans ces derniers temps, nous avons tout trouvé comme Dieu l'avait annoncé par la bouche de ses serviteurs, par les prophètes et les apôtres. Si nous considérons que de nombreuses prophéties datent de plus de 2000 ans et que Dieu les accomplit maintenant en notre temps et que nous pouvons voir que Dieu a veillé sur tout et qu'il veille aussi sur nous en ce moment. Car depuis la première promesse de Genèse 3, verset 15, les hommes ont attendu que la semence de la femme vienne écraser la tête du serpent pour rendre libre, pour nous donner la vie éternelle. Et tous ceux qui ont cru à ses promesses l'ont vu et ont gardé sa parole dans leur cœur. Ils ont été bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui en ce temps ont cru à la parole révélée par Dieu l'auront gardé, repassé, et ils ne resteront plus dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie. La gloire de Dieu les enveloppera. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cru à la promesse et à l'annonce que Dieu a faite. Les bergers ont trouvé tout comme il leur avait été dit. Nous aussi, en ce temps-là, nous avons tout trouvé comme Dieu l'avait dit à l'avance. Qu'il nous bénisse et qu'il mette dans nos cœurs une joie profonde et intime. Il est sur le trône, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta grâce et ta fidélité que tu as eu avec les tiens depuis le début des temps. Tu les as éclairés par ton esprit. Tu leur as parlé au temps convenable. Tu les as guidés sur des chemins que tu avais toi-même tracés afin qu'ils puissent voir en leur temps l'accomplissement des Écritures. Dieu éternellement miséricordieux, tu veux qu'en ce temps encore beaucoup voient se lever une lumière éclatante, mais elle ne se lève que là où se produit l'annonce surnaturelle de ce qui devait arriver selon ta parole. Seigneur fidèle, c'est notre souhait. Continue à nous guider dans ta lumière. Sois miséricordieux envers nous et à cause de ton Saint-Nom. Nous te louons et nous t'adorons. Alléluia. Amen.